Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous. Nous sommes effectivement, comme le répète le générique de cette émission, ensemble sur Calade et ce jusqu'à 14h. Et c'est toujours aussi agréable de passer ce moment avec vous et de rencontrer de nombreux acteurs du Beaujolais, même si ce n'est que par téléphone et qu'on ne se voit pas en vrai. Ça permet d'échanger, de discuter et ça fait du bien. Alors il fait beau aujourd'hui, c'est tant mieux, ça devrait durer toute la journée avec des températures maximales à 26 degrés, même chose demain. Avec un degré supplémentaire. Et puis vous pouvez continuer le schéma comme ça jusqu'à au moins vendredi où les températures pourraient monter jusqu'à 30 degrés. Au programme de l'émission du jour, nous allons rencontrer un cuisinier, Frédéric Nesme de la cuisine de Fred, installé au Péréon. Un cuisinier qui aime partager, ça fait plaisir à entendre. On a rendez-vous avec notre coach pour parler masculinité. Sylvain Flash, président des vignerons des Pierres Dorées, nous parlera quant à lui un peu œnologie. Après les informations de 13h dans la seconde partie d'émission, ce sera plutôt autour de la musique qu'on échangera avec trois animateurs que vous entendez régulièrement sur notre antenne, Thibaut Dubreuil du Super Son des 60s, Georges Botton évidemment pour sa rubrique Mais la 11e, et puis David Christoffel de l'émission Méta Classique. Voilà un chouette programme qui va nous demander un peu, voire beaucoup d'énergie, et pour ça on peut compter sur Calypso Rose. Elle va nous donner le rythme tout de suite pour commencer cette émission avec le titre Abatina. Merci d'être avec nous, on est ensemble sur Calade, il est 11h15. Bon appétit à ceux qui passent à table. morceau Rose sur Khaled qui a fêté récemment ses 80 ans. On vient de l'entendre avec le titre Abatina.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Et oui, nous sommes ensemble sur Calade et tout de suite, on retrouve notre premier invité. C'est Fred Valette, cuisinier au Péréon. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, bah très très bien.
Vous travaillez dans la cuisine de Fred, c'est comme ça que s'appelle votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel qui vous a emmené là où vous en êtes aujourd'hui ?
Oui, en fait, moi ça fait donc 15 ans que je donne des cours de cuisine dans le Beaujolais et un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Et mon métier d'origine, c'est pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. Mais en fait, j'ai toujours été dans la cuisine de près ou de loin. J'ai été dans des restaurants, j'ai été traiteur, j'ai même été barman en boîte de nuit. Donc en fait, j'ai un parcours qui est vraiment toujours de près ou de loin dans la cuisine.
Vous connaissez un peu tous les aspects. Si vous avez été jusqu'à faire barman en boîte de nuit, vous avez dû voir toutes sortes de métiers qui touchaient à la restauration.
Oui, j'ai été poissonnier, j'ai été serveur, j'ai vraiment touché un petit peu à tout. C'est intéressant de pouvoir connaître l'ensemble en fait des activités qui touchent à l'alimentation.
Donc un parcours riche, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, la cuisine de Fred, qu'est-ce que c'est exactement ?
La cuisine de Fred, depuis 15 ans, c'est des cours de cuisine, mais c'est principalement du partage. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de rencontrer l'autre. Souvent, je pense que mes clients pensent qu'ils vont apprendre, mais je pense qu'ils ne prennent pas conscience à quel point moi j'apprends d'eux.
C'est des échanges, donc concrètement ça se passe, alors vous proposez des cours de cuisine, des ateliers de pâtisserie.
Oui.
Et vous avez d'autres activités, il y a un restaurant où on peut venir manger habituellement, vous faites chef à domicile, vous êtes beaucoup diversifié. Comment vous avez eu toutes ces idées sur votre site internet? On trouve un grand nombre de choses que vous proposez comme ça. Comment est-ce que vous vous êtes diversifié autant?
En fait, c'est vraiment je suis curieux de nature, pour moi tout m'intéresse, tout me passionne, j'adore découvrir, j'adore apprendre des autres et de ce que je peux découvrir. Et j'ai une cliente un jour, il y a quelques temps, qui m'a dit « Mais en fait, t'es un cuisinier expérimental. » J'ai dit « C'est exactement ça. Je suis j'adore expérimenter, j'adore découvrir, j'adore partager. »
Donc, changer de façon de faire. Et vous nous avez dit, le fait d'enseigner, de donner des cours de cuisine, c'est aussi enrichissant d'une certaine manière. Vous en tirez, vous aussi, des enseignements. Et c'est peut-être comme ça, à force d'enseigner, que vous avez diversifié vos méthodes.
Oui, parce qu'en fait, quand on écoute, et on a souvent des idées vraiment très intéressantes de clients ou de personnes qu'on va croiser dans notre activité qui nous permettent de dire « Ah mais oui, mais ça aussi, c'est super !» Et c'est vrai que ma cuisine, au départ de mes cours de cuisine il y a 15 ans et maintenant, certains plats, ils ont totalement été modifiés justement à la suite de rencontres et de partages avec mes clients.
Et donc, activités tellement diverses que vous proposez également, pas forcément que de la cuisine, mais aussi des ateliers de création de produits ménagers, de cosmétiques naturels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste ?
En fait, souvent, depuis quelques années, alors c'est devenu quelque chose d'assez tendance, mais moi ça fait bientôt 6-7 ans que je fais des ateliers, que je fabrique des cosmétiques d'abord pour moi personnellement, parce que je trouvais intéressant de se questionner sur les ingrédients qu'on se met sur notre peau tous les matins et d'arriver à être en mesure de les réaliser de façon simple avec des produits le plus naturel possible et d'avoir une performance aussi de ces produits-là, de ces produits fabriqués. Et en fait, c'est assez simple à faire et parfois même déroutant d'ailleurs de la simplicité de ces produits. Et ça permet en même temps de comprendre un petit peu L'engrenage qui peut être entraîné par certains industriels à utiliser des produits de moins en moins naturels et de plus en plus scientifiques.
Et alors le lien avec la cuisine, c'est qu'on fait une crème pour la peau comme on peut faire une crème pâtissière.
C'est pas loin. En fait, on est souvent sur les mêmes. Les mêmes processus. On utilise souvent des outils qui sont quasiment proches, des fouets, des spatules, des récipients. On va utiliser des plaques à induction, des bains-maries pour réchauffer, pour faire des savons. Donc en fait, il y a beaucoup de liens avec la cuisine.
Et les ingrédients donc que vous proposez, c'est des ingrédients naturels. J'imagine qu'on serait surpris de savoir. Qu'on a déjà dans nos placards peut-être des ingrédients qui permettent de faire des produits cosmétiques.
Ah oui, oui. Puis en plus, maintenant, il y a énormément de vidéos sur Internet avec des do-it-yourself pour réaliser des savons. Moi, je réalise mes savons, par exemple, en saponification, donc une saponification à froid, avec de l'huile d'olive, que j'utilise dans ma cuisine, je l'utilise également pour faire mes savons.
Et l'intérêt que vous avez pour les produits naturels et bio, vous ne l'avez pas forcément que pour les produits cosmétiques, vous l'avez aussi en cuisine. On le retrouve sur notamment votre page Facebook, où on voit régulièrement des recettes végétariennes, bio, locales. Quelle importance ça a, les produits que vous utilisez pour vous? Qu'est-ce que ça représente?
Alors c'est vrai qu'on pourrait penser, quand on voit ma page Facebook ou mon site internet, que je sorte sur la mode et sur ce qui est tendance actuellement, alors qu'en fait souvent moi travailler avec des produits locaux, naturels, de saison, pour moi c'est quelque chose qui a toujours été présent depuis une vingtaine d'années. Et moi j'ai des parents qui étaient maraîchers, donc en fait d'être en contact avec la première pomme de terre, les premiers légumes qu'on va aller ramasser directement dans son jardin, pour moi c'est absolument normal. Ça a toujours été présent dans ma vie, et des produits de saison et locaux, pour moi c'est une évidence. C'est pas quelque chose de tendance ou quelque chose qui doit être changé maintenant. Pour moi ça a toujours été le cas.
Et je pense à la cuisine végétarienne, ça doit être un défi de réinventer, et ça doit être hyper intéressant de diversifier des plats. On se dit toujours la cuisine végétarienne, l'une des critiques c'est qu'on mange que de la salade tout le temps.
Les graines et des carottes râpées. L'avantage de la cuisine végétarienne, c'est que elle est un petit peu comme mon métier de base. En pâtisserie, c'est qu'en fait on va prendre des éléments de base qu'on va réunir ensemble pour faire un produit final qui va avoir un intérêt gustatif, une texture, une couleur, et donc forcément c'est un peu comme la pâtisserie. On va prendre de la farine, des œufs, du beurre, et puis on va essayer de faire un gâteau. Et donc en fonction du processus de l'intégration de telle ou telle proportion d'ingrédients par rapport à une autre, on va nous permettre de réaliser quelque chose qui va être différent. Et c'est ça qui est intéressant dans la cuisine végétarienne.
C'est un peu comme la musique, c'est toujours les mêmes 12 notes, mais c'est jamais la même mélodie en fonction de comment on les assemble.
C'est amusant parce que c'est exactement quand je veux expliquer la cuisine, c'est souvent ce que je dis souvent, la cuisine c'est comme de la musique. Au départ, quand on commence à apprendre d'un instrument, on va essayer de reproduire des notes sur une partition. En cuisine c'est pareil, on va commencer par prendre un livre de cuisine et essayer de reproduire la recette. Au bout d'un moment, on est capable de la refaire sans livre de cuisine, donc sans partition. Mmh. Et puis à un moment, on se dit, tiens, si je prends cet accord, ou si je prends cet ingrédient, je vais être en mesure de réaliser ce plat, cette pâtisserie ou cette musique.
Et depuis deux mois, là, on vit une période bien particulière. Vous, comment est-ce que vous avez changé votre partition, justement? Comment est-ce que vous êtes adapté à cette période?
Voilà, c'est compliqué. Ça a été très intéressant dans un premier temps, parce que ça permet de... étant donné que je suis toujours dans l'expérimentation, du coup, j'étais à égalité avec des personnes qui font le même métier que moi, parce que du coup tout le monde était obligé quelque part de se remettre en question. Après, moi j'ai eu des propositions, j'ai encore, cet après-midi d'ailleurs j'ai un rendez-vous avec, avec un ami qui veut démarrer un projet avec moi. Donc il y a des choses très intéressantes qui commencent à arriver. Moi, dans un premier temps, j'ai essayé de garder le lien. Je travaille avec un centre social à Décines. Et ils souhaitaient garder le lien avec les personnes qui participent à ce centre social. Donc du coup, j'ai commencé à mettre en ligne des recettes simples à réaliser avec les ingrédients qu'on avait dans notre placard pendant le confinement. Et donc ça a démarré comme ça. Et j'ai après fait une petite vidéo un petit peu avec le matériel dont j'avais à ce moment-là. Et maintenant, j'essaye de structurer un peu plus avec ce déconfinement et de trouver d'autres liens possibles avec la problématique actuelle.
Et tout ce qui est atelier cuisine, vous pensez pouvoir reprendre ces activités-là bientôt? Vous avez des idées de comment mettre en place des protocoles sanitaires, peut-être par visio, je ne sais pas?
Eh bien, ouais. Alors, ce matin, j'étais justement en entretien. J'étais en visio hier, j'étais en entretien ce matin avec des acteurs locaux. Et donc en fait, je suis en train de préparer justement des ateliers en visio et on va pouvoir démarrer des ateliers en groupe de famille ou des petits groupes qui seront possibles avec bien sûr toute la mise en place de la distanciation, des masques et de vraiment des désinfections des lieux pour permettre justement de se retrouver. Alors ça sera dans un premier temps limité à des groupes. On peut pas, c'est trop compliqué de mettre des personnes qui ne se connaissent pas entre elles parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus pour tout le monde, je pense, et pour moi également. Donc je préfère démarrer progressivement, doucement les ateliers, d'abord par des groupes qui se connaissent entre eux.
Ouais, et puis les visioconférences, ça demande un peu de logistique et s'écouter les uns les autres. Alors avec des inconnus, on peut vite imaginer que les trois quarts de la conversation vont être « qu'est-ce qu'il dit ? J'ai pas compris.
Est-ce qu'il peut ?» Oui, mais dans les ateliers aussi, c'était un peu ça. C'est toute une c'est comme pour vous. Il y a de l'animation, il y a de l'écoute et il y a aussi une prise de parole et être en mesure de diriger la prise de parole pour que ce soit justement... intéressant et vivant et convivial à la fois.
Aujourd'hui, on vous retrouve tous les vendredis, c'est ça, à l'AMAP de Blacé, où vous proposez des paniers à emporter?
Alors, pour l'instant, l'AMAP, je vends mes productions avec mes fabrications. Pour l'instant, on est en train de travailler sur un panier sous forme de contrat. On n'a pas encore défini, on va dire, les règles. Moi, j'essaye d'établir en fait une sorte de programme annuel qui permettra de dire tiens, à tel moment ça sera des chocolats, à tel moment ça sera des gâteaux ou d'autres choses, parce que je fabrique mes granolas, je fabrique des bouillons, je fais des coulis parce que je produis une partie de mes légumes également. Donc c'est vraiment très vaste, c'est très très varié. Donc en fait le champ des possibles est vraiment important.
Et encore assez large.
Eh bien, oui,
exactement. Eh bien, tant mieux, c'est plutôt positif. Donc, on vous retrouve sur Facebook, sur votre page Facebook, et puis sur votre site internet, lacuisinedefred.com, tout simplement.
Exactement, tout à fait.
Merci d'avoir passé du temps avec nous ce matin, de nous avoir parlé de votre activité. On vous souhaite une bonne continuation.
Merci, c'était un plaisir.
À bientôt, Fred, de la cuisine de Fred. On va faire une petite pause musicale tout de suite sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et je vous propose d'écouter Caribou, un producteur canadien qui nous chante You and I. Enfin, il ne chante pas, c'est la musique.
Thank you.
Caribou sur Calade pour cette petite pause musicale avec le titre You and I.
Ensemble sur Calade.
Et il est l'heure de retrouver un personnage atypique, c'est notre coach, on a rendez-vous avec lui tous les mardis aux alentours de 12h30. Il nous apprend à devenir un mal alpha, ce coach. Bonjour, comment allez-vous ?
Salut gamin, ça va ?
Ça va bien et vous ?
Bah écoute, moi ça va plutôt bien. C'est vrai qu'on a commencé la semaine dernière. Je suis là un peu moi pour reprendre des choses en main parce que je vois plein de mecs là comme ça là qui se comportent vraiment pas comme il faut et qui sont pas des vrais hommes. Donc mon but à moi c'est de vous aider à devenir des mâles alpha, des chefs de meute quoi. Là. Et j'espère que tu as tenu compte de mes conseils de la semaine dernière et que tu as commencé ton chemin, ta transition pour devenir un mâle alpha.
J'y travaille, bien. Coach.
Alors cette semaine, j'ai décidé de vous apprendre un peu comment se comporte un mâle alpha dans sa meute et avec sa femelle. Alors tout de suite, je vais vous dire, le mâle alpha, il n'aide pas sa femelle, il fait sa part. Et ça, il faut bien le comprendre. On n'est pas là pour aider les femmes, on est là pour faire notre part. Je vais vous raconter une petite anecdote, hein, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on comprend mieux. Il y a quelque temps, alors c'était avant les histoires de Covid et de confinement, nous étions invités chez des amis. Ma femme était en train de dire qu'elle allait pas avoir assez d'une vie pour réaliser tous les projets qui lui tiennent à cœur. Et notre amie, là, qui était affairée à terminer la préparation du repas, lui répond au rebond depuis la cuisine. Et encore, t'as de la chance, le coach t'aide à la maison. Alors ça fait sourire son imbécile de conjoint qui était peinard en train de boire un verre dans le salon avec nous. Alors moi j'interviens à mon tour au rebond et je dis ah non, moi je l'aide pas, je fais ma part. Et c'est pas la même chose. Notre ami qui était toujours à la cuisine en train de se débattre avec le repas, renchérit, oui enfin bon, bref, elle peut compter sur toi pour les tâches ménagères. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ache difficilement l'affaire, donc je lui réponds que non, je ne l'aide pas. Elle ne peut pas compter sur moi. Je fais ma part. C'est-à-dire que je prends ma part de charge à assumer. Je suis un vrai mec, un vrai mâle alpha. C'est pas de l'aide. Si je ne le fais pas, elle va pas le faire à ma place. Ça va rester comme ça. C'est-à-dire, s'il y a un truc à ranger et que moi je le fais pas, c'est pas elle qui va le ranger à ma place. Et quand on dit que je l'aide, ben, ça sous-entend que ma femme est responsable des tâches à réaliser à la maison et que moi je suis un subalterne. Est-ce qu'on a déjà vu un mâle alpha subalterne quand même ? Ça me paraît. Donc, quand je dis que je fais ma part, je sous-entends que je porte la responsabilité à parts égales. Alors, dit comme ça, je suis d'accord, peut-être que la différence ne saute pas vraiment aux yeux aux autres, pour les autres mâles du clan, hein, parce qu'ils ont des fois un peu du mal à comprendre aussi. Effectivement, c'est deux façons de décrire une situation à peu près semblable où le mâle fait sa part. Mais alors, pourquoi insister sur la différence entre « j'aide ma femme » et « je fais ma part » ? Eh bien, les mots qu'on utilise sont importants. Ils viennent dire que j'investis les choses. Parce que changer sa façon de dire les choses, c'est aussi changer sa façon de les faire et de les aborder. C'est pour cela que c'est important. Et quand j'affirme « je fais ma part », c'est un engagement que je prends. J'engage ma responsabilité de mâle alpha à porter ma part de charge. C'est un vrai acte pour l'égalité. Faire sa part, c'est pas simplement participer aux tâches de la maison, c'est aussi en avoir la préoccupation. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, gamin.
J'ai le terme charge mentale qui tourne dans ma tête depuis que vous avez abordé le sujet, coach.
Ah, je savais que tu n'étais pas récupérable, gamin, et que tu prends un vrai mal alpha si on te prend bien en main. Alors, effectivement, la charge mentale, des études ont montré que cette charge mentale, elle est portée à 73% par les femmes dans les couples hétérosexuels. Ça veut dire, la charge mentale, ça veut dire qu'il va penser à prendre rendez-vous chez le médecin pour les enfants, les rappels de vaccins, qu'il va penser aux cadeaux d'anniversaire, qu'il va se rendre compte que les habits de la petite dernière sont trop petits, qu'il faut aller au magasin acheter de nouveaux collants ou acheter de nouveaux sous-vêtements. C'est qui va prendre l'initiative de faire les courses et de prévoir le repas de la semaine, ou qui va changer les draps du lit. Enfin, tout ça, voilà, c'est vraiment avoir la responsabilité et la préoccupation de faire tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et pas question pour le mâle alpha d'attendre des remerciements de sa femelle pour avoir fait la vaisselle ou pour avoir rangé des vêtements des enfants qui traînent dans le salon. Jamais tu n'entendras un mâle alpha dire « T'as vu chérie, j'ai fait la vaisselle et t'as vu, j'ai préparé une quiche pour ce soir » en espérant de recevoir des remerciements appuyés de sa femelle. Les mâles, eux, est-ce qu'ils remercient leur femelle de prendre en charge tout ce travail domestique ? Très très rarement, n'est-ce pas ?
Eh oui, malheureusement.
On est comme ça, les mâles, nous, on attend dès qu'on met les mains dans l'eau, on a l'impression qu'on fait un truc d'extraordinaire et que les femelles vont arriver et nous dire « Oh, c'est bien, t'as fait la vaisselle, c'est gentil. » Sauf que nous, on le fait pas, ça. Alors, un mâle alpha ne se dédouane pas non plus de cette responsabilité en se comparant avec les autres mâles de la meute. genre, tu vois, t'en fais un peu plus que le mâle pitoyable, le plus pitoyable de la meute, et tu dis oui, mais moi j'en fais plus que Roger, et tu penses que ça va être un argument valable pour faire valoir pour continuer à fuir ta responsabilité de mâle alpha. Non. Le nouveau mâle alpha, il doit assumer ses responsabilités et toujours faire ce pas de côté pour regarder la situation d'une place différente. Il doit regarder la norme, ce qui lui semble normal et qui échappe à nos interrogations, puisque c'est comme ça. Le mâle alpha, il doit agir comme un observateur étranger sur sa propre vie. Et comme un voyageur qui découvre un pays et une culture éloignée de la sienne, il doit se demander pourquoi les choses sont organisées comme ça à chaque fois qu'il se trouve confronté à un fait social. Le nouveau mâle alpha, il doit interroger ce qui est établi au niveau de sa place et au niveau du fonctionnement de ce système. Le nouveau mâle alpha, dans sa quête de l'égalité, doit questionner, analyser et agir en conséquence et en accord avec ses aspirations d'équité, de responsabilité et d'honnêteté. Il avance avec courage pour affronter la réalité et se battre contre ses propres conditionnements. Alors, il y aura toujours des pleutres parmi les mâles de la meute pour se tenir qu'il y a des combats plus importants que l'égalité ou de savoir qui va faire la vaisselle ou qui s'en est soucié. Ça, c'est l'argument de ceux qui n'ont pas le courage et la force de se battre pour leurs idéaux. La libération se mène sur tous les terrains. Et pour les autres, comme toi, gamin, parce que j'ai vraiment confiance en ce que tu deviennes un vrai mâle alpha, eh ben, les mâles alpha en devenir, vous pouvez tester l'application Mayday. Ça s'écrit M-A-Y-D-E-E. Et c'est développé par l'association du même nom et qui est disponible sur le site mayday.fr, qui permet de faire le point dans une famille sur la répartition des tâches du foyer, de voir un peu qui a pensé à faire quoi et qui fait quoi. C'est une bonne façon de se rendre compte de la répartition des tâches à la maison. Mais encore faut-il avoir le courage de s'y confronter. N'est-ce pas, gamin ?
Ça peut être effrayant de se rendre compte de ce qu'on fait et surtout de ce qu'on ne fait pas à la maison si on a une application qui comptabilise tout ça. Mais idée, c'est intéressant. J'aimerais bien y jeter un coup d'œil à cette application. Merci beaucoup, coach, de nous avoir parlé de cette histoire de charge mentale et puis surtout nous conseiller de faire notre part, ce qui est essentiel.
Allez, gamin, je te dis la semaine prochaine et puis continue, t'es sur la bonne voie.
Merci beaucoup, coach. Moi, je me sens déjà un peu plus mâle alpha grâce à notre ami coach qu'on retrouvera la semaine prochaine. On écoute M, lui aussi, c'était un peu un mâle alpha à l'époque, il chantait Machistador. Allez,
un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'Iti dans ma golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste. Et je sais qu'elle ma gueule. Non, 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 il n'y a pas de lol. Oh, machiste. Je me brise au whisky glace. Je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu. Malade pas beau quand j'ai trop bu. Ce magazine nous contamine. Je préfère encore les fanzines. Pour la télé y'a pas photo. Je préfère Hervé qui fait du bout de l'image du monde à votre âge. C'est immonde de vivre sur le cul de ces individus qui n'ont pas pu à dire que Raoul se satire. C'est un machiste d'or. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas de là. Oh, machiste d'or. D'approche, j'ai le mouvement en poche et d'un pas pragmatique, je pratique la drague, mais ma poitrine est en berne, il faut y remédier. fou, jouer au salaud comme les fils de John Wayne avec un long manteau à chapeau. Non, pas la peine. Même les jours difficiles, j'ai toujours les mots piles. Ici, ça m'attiste à d'or. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y a pas d'erreur. Je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y a pas de règle. Oh, machistador. Ensemble, macho, macho, machistador, macho, macho. Macho, macho, machistador, macho, macho. Allez, macho, macho, machistador, macho, macho. Macho, macho, machistador, macho, macho.
J'adore, c'était M de Machistador sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Et oui, nous sommes ensemble sur Calade et ensemble avec nous, on retrouve le troisième invité de cette émission, c'est Sylvain Flash, président des Vignerons des Pierres Dorées. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, merci, tout va bien.
Donc vous êtes le président des Vignerons des Pierres Dorées, alors qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation ?
Alors les Vignerons des Pierres Dorées, c'est une coopérative qui est présente sur le secteur du Val-d'Oie et tout ce qui est le secteur de Saint-Véran jusqu'aux collines de Tarare. Donc nous regroupons environ 500 hectares sur une quinzaine de communes.
Et combien
d'appellations Beaujolais.
Et combien de viticulteurs sont réunis
Alors 180 coopérateurs composent la coopérative. Sachant qu'un coopérateur peut être un propriétaire, voire un viticulteur.
Et donc les Pierres Dorées, ça fait partie du géoparc du Beaujolais. Ce géoparc, on en entend souvent parler, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
Alors, le géoparc, c'est une initiative de l'UNESCO qui date de plusieurs années. C'est la mise en valeur du patrimoine géologique d'une région donnée. Donc, il s'avère que le Beaujolais, contrairement à ce qu'on peut croire, est composé de multitudes de roches. Le directeur de l'espace Pierre Foll à Saint-Jean-des-Vignes a coutume de dire que le Beaujolais, c'est le pays des mille roches. Donc, c'est la mise en valeur, un géoparc, c'est la mise en valeur du patrimoine aussi bien bâti que géologique, tout ce qui est affleurement, etc., site exceptionnel, que des habitudes de travail liées au sol, parce que tout vient du sol. C'est la mise en valeur de tout ce qui vient du sol.
Et le sol, on sait que c'est important dans votre branche et dans votre corps de métier. C'est ce qui va influencer sur le goût du vin, tout simplement.
Voilà, et c'est pour ça que nous, on est ambassadeur du Géoparc Beaujolais, parce que dès 2013, suite à l'étude des sols en Beaujolais, nous avons décidé de faire des cuvées terroirs. Donc ça s'est traduit en 2016 par 10 terroirs différents qui ont été vinifiés. On les a dégustés pendant une année pour définir ce qui était les plus emblématiques et les plus à même d'exprimer la diversité du Gamay. On en a choisi 4 en 2017, donc en l'occurrence pierre bleue, schiste, gravette, qui est la pierre emblématique des Pierres Dorées, et gneiss, qui est une roche volcanique qu'on trouve à côté du secteur de Tarare.
Donc ça, c'est vos activités quotidiennes. Mais la période qu'on vient de vivre, en quoi est-ce que ça a pu impacter les activités des vignerons et du monde viticole?
Alors pour les vignerons, ça n'a pas changé grand-chose. Comme vous avez pu le constater, il a fait beau. Donc ce qui fait que la vigne a 15 jours d'avance par rapport à la moyenne, par rapport à l'an dernier. Donc ce qui fait qu'on devrait avoir des vendanges assez précoces. Il y a beaucoup de raisins, il y a des raisins. Donc on se dirige vers une récolte, on va dire, normale, contrairement à l'an dernier où on avait subi beaucoup d'aléas climatiques. Ouais. Donc ce qui fait que les vignerons, ils ont continué leur travail, on va dire. La nature est très belle parce qu'on a eu un petit épisode pluvieux. Maintenant il fait beau, donc tout est vert, les vignes sont poussées, c'est joli. Donc pour le vigneron, dans l'absolu, ça n'a rien changé. Où ça a changé quelque chose, c'est au niveau de nos ventes caveaux. On a un caveau à Ouin, notamment, qui accueille beaucoup de touristes et des locaux. Et là, on l'a fermé, même si on aurait pu être ouvert. Mais les rues étant désertes, il n'y avait aucune raison d'être ouvert. Donc, ce qui fait que nous, ça nous a fortement impacté sur nos ventes caveaux, qui sont quand même assez importantes. Et ça nous a impacté aussi sur nos ventes auprès de tout ce qui est le secteur de la restauration, qui lui aussi souffre beaucoup de cette crise, quoi.
Et vous avez trouvé des alternatives, des idées pour essayer de relancer un peu l'économie? Vous avez mis en place certaines choses peut-être?
Alors on avait fait du drive, ça va paraître anachronique, mais on va se lancer dans la vente sur Internet pour essayer de conquérir d'autres marchés et de conquérir d'autres clients. Et ce qu'on va faire, ça c'est quelque chose qu'on fait tous les ans, c'est la semaine des vignerons des pierres dorées. Donc c'est une semaine où le lundi c'est réservé, on va dire, aux restaurateurs, etc. Donc cette année ça pourra pas avoir lieu. Et la semaine c'est dégustation dans les caveaux, et le week-end on essaye de faire quelque chose d'assez original. Et cette année, étant donné que nos amis restaurateurs sont eux aussi durement impactés, on va leur proposer de venir faire des repas sur notre site du Val-d'Oin à Saint-Laurent, où on va faire des dégustations en plein air. Et si certains restaurateurs veulent venir pour proposer des plats à emporter ou à déguster sur place, étant donné qu'on a une petite surface enherbée, faire un déjeuner sur l'herbe, on va leur proposer ça. Essayer d'être solidaire dans cette période assez difficile.
Mettre en place une sorte de dégustation et de repas où on pourra tous garder les distances nécessaires. Et
voilà. Bah, c'est pour ça, au début, c'était prévu à Ouin, où on a un magasin. Mais étant donné que les 4 mètres carrés, on allait se retrouver à 10. Donc là, on va faire ça sur tout ce qui est parking ou chais de réception de la vendange, qui lui est abrité et surtout très vaste. Et surtout, on a comme je vous dis, on a un petit pré à côté, donc ça permet de respecter toutes les gestes, de respecter tous les gestes barrières et toutes les précautions d'usage.
Et donc ça aura lieu, vous nous l'avez dit, c'est la semaine du 13-14 juin.
Voilà, ça sera le 13-14 juin, où on va faire, en fonction de la volonté des restaurateurs, de faire ce petit événement.
Parce que normalement, cette semaine, c'était le festival Bienvenue en Beaujonomie qui devait avoir lieu et qui a dû être annulé, forcément.
Voilà, comme beaucoup de choses, ça a dû être annulé, parce que c'était des petits repas. C'est une initiative qui date il y a 2 ou 3 ans, où c'est le vigneron, on reçoit chez lui ou dans son caveau, il fait un plat un peu assez élaboré autour de ses vins, et il reçoit, on va dire, entre 20 et 30 personnes avec dégustation commentée et des plats qui sont construits autour des vins.
Et les dégustations au caveau des vignerons des pierres dorées, vous en proposez. Comment ça se passe actuellement? J'imagine que...
Alors malheureusement, étant donné que éternuer c'est entre guillemets dangereux, cracher c'est un peu la même logique. Donc ce qui fait que on peut pas déguster. Donc c'est un peu venez découvrez nos gammes. On a la chance d'avoir des vignerons qui travaillent précautionnellement leur vigne. On a la chance d'avoir une équipe d'onologues jeunes et qui fait des vins modernes et innovants. Donc c'est un peu venez découvrir nos vins, les étiquettes sont belles. Et puis ramener les devoirs à la maison, ça changera pour certains de l'école à la maison. Avec modération bien sûr, mais ça permet de profiter des paysages des pierres dorées qui sont magnifiques et de déguster le Beaujolais sous un autre angle.
Alors oui, là on va avoir un beau week-end de 4 jours. Il faut rester dans des distances de moins de 100 km autour de nous, à part si on a une dérogation pour certaines raisons. Les vacances et les week-ends comme ça, on va devoir rester dans la région. Ça peut être l'occasion de faire du tourisme local. Vous avez réfléchi aux opportunités à mettre en avant peut-être, je ne sais pas, des terrains, des vignes à visiter.
Alors c'est des choses qu'on peut proposer sur demande, de faire des visites de caves ou de vignes. On avait prévu de faire pour ce week-end-là une course d'orientation dans nos terroirs emblématiques, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc on va avoir un an pour préparer la version 2021, quoi. On va pouvoir peaufiner ça tranquillement. Dans l'immédiat, on peut proposer des visites sur demande. Ça, il n'y a pas de souci.
Très bien. Et puis, aller se balader dans les beaux villages des pierres dorées et puis profiter des paysages qu'on a en ce moment avec le beau temps. Ça peut être...
Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Et Ouin est le seul village du Rhône classé parmi les plus beaux de France. Et c'est vrai que la Calade, c'est à moins de 100 km de chez nous. Je pense qu'un petit tour dans les Pierres Dorées, ça peut aérer l'esprit et faire plaisir aussi aux papilles.
Une petite randonnée. Eh ben, merci pour ces bonnes idées. On rappelle, parce qu'on a parlé, de vin, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé
et que
c'est à consommer avec modération. Merci Sylvain Flash de nous avoir parlé des caveaux qui sont là et puis comment vous avez réagi à cette dernière situation.
Merci à vous.
Je souhaite une bonne journée et puis une bonne continuation dans vos activités.
Merci, vous aussi.
Allez, on va faire une
bonne journée.
On va faire une petite pause musicale sur laquelle je vous propose d'écouter Philippe Catherine et Angèle qui nous chantent leur titre duo.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo.
C'était Philippe, Catherine et Angèle sur Calade pour ce magnifique morceau qui s'appelle Duo.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Et oui, nous sommes ensemble sur Calade jusqu'à 14h. Et il va être 13h dans moins d'une minute. Ce sera l'heure des informations locales et internationales avec à 13h le journal de RFI et à 13h10 le journal local de Sylvie Rosier. On se retrouvera donc vers 13h25 pour une seconde partie d'émission plutôt musicale. On a rendez-vous avec Thibaut Dubreuil du Super Son des 60s qui nous trouve toujours des petites pépites des années 60. Des morceaux oubliés, donc on va voir ce qu'il nous proposera. On a rendez-vous avec Georges Botton pour sa rubrique Mai la 11e qui nous propose également des morceaux oubliés, des morceaux de jazz des années 30, 40, etc. Et puis on a rendez-vous avec David Christoffel, animateur et producteur de l'émission Méta Classique, musicologue et expert en musique classique, et on parlera également de ce thème de la musique. À tout à l'heure donc sur Calade, vous êtes dans l'émission Ensemble sur Calade.
Calade, 13h. Calade, 100.9.
Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade. Et nous voilà de retour dans Ensemble sur Calade. Ravi de vous retrouver en ce mardi 19 mai. Il est 13h23 et il fait toujours aussi beau dans le Beaujolais. Et c'est toujours aussi agréable. Pour cette seconde partie d'émission, on va beaucoup parler musique avec nos intervenants. On retrouvera Georges Botton pour sa rubrique Mai la 11e. Et puis nous avons rendez-vous aussi avec David Christoffel, animateur de l'émission Méta Classique. Mais d'abord, on retrouve l'animateur qui vous accompagne tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Calade. Léonard Michalon, c'est son nom d'animateur. Pour les intimes, c'est Thibaut Dubreuil. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien.
Alors, on vous retrouve tous les mardis à cette heure-ci dans l'émission Ensemble sur Calade et vous nous proposez chaque jour d'écouter un morceau pour mettre en valeur une compilation ou un album. Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour aujourd'hui ?
Ah ben cette fois-ci, on va pas parler forcément d'une compilation, on va parler d'un homme et de son label. Il s'agit de Andrew Oldham, qui est un garçon qui avait commencé comme manager des Rolling Stones. En fait, c'est lui qui a littéralement créé les Stones, comme les Stones sont arrivés après les Beatles, et que la place de gentil garçon en costume cravate était déjà occupée. Et donc, il a décidé de faire des Stones les méchants, les affreux. C'est lui qui avait balancé à la presse « Est-ce que vous laisseriez votre fille épouser un Rolling Stones ?» Et puis alors forcément, tout le monde s'en est emparé. Et puis voilà, donc il a créé un peu le mythe des mauvais garçons, alors qu'en fait, tout ça, c'était un peu de cirque. Voilà,
au début, ils étaient aussi bien habillés, bien coiffés, etc.
Très rapidement, Mick Jagger est devenu, avec sa grande gueule et assez provocateur, ce que les Beatles n'étaient pas. Quoi. Mais ils s'organisaient toujours pour ne pas sortir leur disque en même temps, de façon à ce que chacun bouffe un petit peu la part du marché. Donc voilà. Et ce garçon-là n'a pas fait que ça. Andrew Oldham, il a fondé un label qui a existé une poignée d'années, entre 65 et 70. C'était un label qui s'appelle Immediate. Alors des labels, on en connaît plein. Peut-être parmi les plus connus, il y a la Motown, par exemple. Mm-hmm. Alors, le sien, forcément, est moins connu, mais est absolument magique parce qu'il a vraiment, vraiment bien travaillé pour ses musiciens, pour ses chanteurs qu'il avait signés. Et les productions sont vraiment très soignées. Alors, il existe aujourd'hui des compilations qui recensent tous les morceaux qui sont sortis sur le label Immediate. Et il y a des trucs absolument formidables. Alors, il a signé des filles. Pippi Arnold, par exemple, qui est une chanteuse qu'il a débauchée de chez Ike et Tina Turner un jour de tournée en Angleterre. Et elle était choriste pour eux. Et hop, il l'a prise sous son aile. Elle est venue chanter sur son label. Marianne Faithfull aussi a été là. Et puis des garçons un peu moins connus, Billy Nichols, dont j'avais déjà parlé sur cette antenne, Rod Stewart, qui a eu l'immense carrière qu'on connaît par la suite, Chris Farlow aussi, qui est un immense chanteur de soul, mais blanc, et puis d'autres groupes, Humble Pie, et puis le groupe star de son label, qui était les Small Faces, qui était absolument superbe. Voilà, c'est un garçon, j'ai retrouvé une de ses photos de lui, il avait vraiment la classe, quoi, dans les années 60, très beau mec en plus. Ses bureaux étaient dans un quartier plutôt chic de Londres, dans le même immeuble que David Bellet. Alors, pour ceux qui connaissent la photo, David Bellet, c'était un des grands photographes des années 60, et il a été aussi l'époux de Catherine Deneuve pendant 2 ou 3 ans, je crois, voilà, avant qu'ils se séparent. Et Andrew Oldham voulait absolument, dans sa maison, un duo. Puisque les duos étaient très à la mode à cette époque-là, donc tout le monde connaît Simon & Garfunkel, bien sûr. Il y a eu Sam & Dave en musique soul, rhythm and blues, funk. Il y a eu Ike et Tina Turner, dont on parlait, des duos qui étaient mixtes. Il y a eu quelques duos de filles, mais moins nombreux. Et puis lui, il voulait absolument avoir un duo. Et du coup, comme il avait embauché quand même pas mal de gens pour écrire des chansons, et qu'il manageait les Stones à côté, et qu'il avait embauché aussi quelques musiciens, notamment Jimmy Page, il s'est dit qu'avec ce duo-là, il allait cartonner. Ça n'a pas du tout marché. Les deux garçons donc, qui forment ce duo s'appellent Twice As Much. Donc le duo s'appelle Twice As Much. Il y avait Dave Skinner donc, et Andrew Rose. En fait, ils n'ont fait qu'un tout petit titre qui était une reprise des Stones en 66 qui s'appelait Sitting on a Fence, avec lesquels ils ont marché un petit peu. Et puis c'est à peu près tout. Mais quand on réécoute ce qu'ils ont enregistré, c'est absolument magnifique. Et on pourrait croire qu'ils étaient là uniquement pour chanter les chansons des autres. Bah, pas du tout. Ils se sont révélés être aussi auteurs-compositeurs de grands talents. Et voilà, ils ont disparu, ils ont été noyés à partir de 1970, quoi, à la fin des 60s, quand le label a fait faillite aussi, de façon plus personne ne s'occupait d'eux. Et on retrouvera Dave Skinner dans les années 70, où il aura eu une petite carrière de musicien, puisqu'il a tenu les claviers chez Roxy Music. Et puis il reste quand même tout ce qu'ils ont enregistré. Alors, c'est absolument magique, quoi.
C'est assez dingue, ces groupes qui ont un talent notable, quoi, qu'on entend quand on entend leur musique. On ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est le label qui n'a pas suivi, les maisons de disques qui n'ont pas fait ce qu'il fallait?
Alors le label n'a pas suivi, et puis je crois que c'était la période qui voulait ça aussi. Et je suis retombé sur la préface d'un livre justement écrit par Andrew Oldham, où il dit en fait on s'éclatait, c'était la fête, on avait du succès, on avait soudainement de l'argent, des belles voitures, des filles qui nous suivaient, et puis tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain et on n'en faisait pas une maladie. Et c'était, je pense, c'était le star system n'existait pas à cette époque-là, et ouais, les gens s'accrochaient pas, quoi. Donc on enregistre des trucs et puis on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces deux-là après? Aucune idée. Dave Skinner, Andrew Rose, voilà. Est-ce qu'ils ont travaillé comme techniciens ou est-ce qu'ils se sont reconvertis? J'ai vu plein de reconversions assez étonnantes de chanteuses qui sont devenues institutrices, qui employaient des impôts, qui enregistraient des 45 tours et puis qui sont passés à toute autre chose par la suite.
Et ouais, c'était une autre époque, le star system, justement. Ouais, c'est peut-être ça l'explication. Et puis je voulais vous demander aussi, vous nous parlez de labels comme la Motown par exemple, que vous avez évoqué. Est-ce que c'est la même chose qu'une maison de disques, tout simplement?
Oui, c'est à peu près la même chose, hein. On peut utiliser à peu près les mêmes termes pour désigner les deux.
Très bien. Voilà, c'était juste la question technique que je me suis demandé.
Ah, c'est vrai qu'un spécialiste irait sans doute beaucoup plus dans les détails, mais bon, voilà, c'est le label, c'est sa maison, quoi, tout simplement. Ouais.
Parfait. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir conseillé le groupe Twice As Much à écouter. On va écouter tout de suite un de leurs titres, The Summer's Ending.
Voilà, et c'est un titre qu'ils ont composé et qu'ils interprètent. Et franchement, le mélange des deux voix est vraiment excellent. Puis il y a même des mouettes au tout début de la chanson. C'est le Summer Ending, c'est la fin de l'été, quoi. Et c'est vraiment une chanson de fin d'été.
Et ben c'est parfait, on écoute ça tout de suite avec Twice As Much. Je vais travailler mon accent anglais, mon accent
deux fois mieux en français, voilà.
Deux fois mieux. Merci beaucoup Thibaut Dubreuil. Léonard Michalon dans le Super Son des 60s. On vous retrouve ce soir à 19h.
Merci et bonne journée.
À bientôt. Twice As Much alors sur Calade, The Summer's Ending. The summer's ending, and the nights grow long. My heart is aching since you've been gone. My mind, it wanders to days gone by, but love, it hurts me and makes me cry. 'Cause I know love that burned in my heart, I don't know. Twice as much, c'est le groupe, le duo que l'on vient d'entendre avec leur titre The Summer's Ending, magnifique morceau qui a eu un grand succès à son époque et qui aujourd'hui est totalement inconnu au bataillon. Et bien, si vous aimez ce genre de petites pépites, vous les retrouverez à 19h dans le super son des 60s. Allez, il est l'heure de retrouver notre chroniqueur régulier, chroniqueur musical, c'est Georges Botton pour sa rubrique Mais la 11e. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Eh bien écoute, ça va, il fait toujours beau, ça fait vraiment plaisir et ça annonce un bon 4 jours tranquille et j'espère beau. Voilà.
Oui, toi, c'est tout ce qu'on peut espérer. Bah écoute, oui, ça va. J'espère également passer un beau week-end et un beau pont ensoleillé. J'en doute pas. Je pense qu'on va pouvoir en profiter. Alors, tu as l'habitude, Georges, de nous proposer quelques citations pour commencer cette rubrique.
Oh, j'ai deux petites. J'ai d'abord la citation d'un monsieur qui a dû écrire à une fonction publique. Je ne sais pas si c'est un palais de justice ou autre. Il devait être inquiet. Et il a écrit « Il me faudrait un extrait de mon casier judiciaire et sans mention si possible. » Il ne devait pas avoir la conscience bien tranquille. Et puis alors Pierre Dac, le grand Pierre Dac, que j'ai eu hier soir au téléphone. Alors je l'ai dit l'autre jour, Pierre Dac a fait beaucoup de citations sur le cinéma. Mmh. Et alors il a la citation suivante. « En jargon maraîcher de cinéma légumier, un navet est un film dont les carottes sont tellement cuites que la fin de ses haricots est proche. »
Et oui, le fin voilà. Navet.
Ça va, t'as pigé, il y a bon, je la répète.
Non, celle-là, j'ai bien compris.
Ah, bon, je sais c'est que... bien, bravo, ça m'étonne pas, t'es intelligent. Bon. Alors, revenons aux choses sérieuses. Je vous ai choisi, amis auditeurs et amis auditrices, un orchestre que vous connaissez, Duke Ellington et son Cotton Club Orchestra. J'ai choisi ce morceau parce qu'il y a parmi les musiciens, les 10 musiciens, un excellent clarinettiste de grand talent qui s'appelle Barney Bigard. Et je vais vous en dire deux mots parce que je l'aime beaucoup et il mérite l'affection et l'admiration qu'on a pour lui. Le morceau que je vais mettre s'appelle Saturday Night Function. C'est un enregistrement du 10 janvier 1929 à New York, vous voyez, c'est pas tout récent. Alors dans ce morceau, très très rapidement, à 0 minute 38, il y a un beau solo de Barney Bigard, le clarinettiste. Vous verrez une sonorité extrêmement pure, une grande simplicité dans la ligne mélodique et des inflexions qui sont le signe d'un grand clarinettiste. Et puis il y a également d'ailleurs un passage au saxo alto par le grand Johnny Hodges et un passage au saxo baryton par Harry Carney. Alors Barney Bigard, je vais vous en dire deux trois mots, même pas mal d'ailleurs. Il est né en 1906 à la Nouvelle-Orléans. Il est décédé en Californie, il a vécu 74 ans. C'était donc un clarinettiste, un saxo-ténor également et un compositeur. Il a débuté avec l'orchestre d'Albert Nicolas, un autre grand clarinettiste, et également il a joué avec Louis Russell. Et en 1924, il est parti à Chicago. Il a joué avec King Oliver, où il a remplacé un très grand clarinettiste qui est pratiquement inconnu et dont on parle jamais. C'est un très très grand clarinettiste, Daniel Howard. Ensuite, Barney Bigard a été dans l'orchestre de Duke Ellington au Cotton Club. Il est resté avec Duke Ellington 14 ans, c'est énorme. Et il a écrit avec Duke Ellington de nombreux thèmes, dont Mood Indigo, Solitude et Clarinet Lament. Ensuite, il a créé son propre groupe en 1942 en Californie. En 1944-45, il a créé un autre groupe et il est parti à New York. En 1946, il a joué également avec Kid Ory. Et après, il a joué avec Louis Armstrong et le All Stars de Louis Armstrong. Et ils ont participé au Festival de Nice en 1948. Et puis après, il a fait, Barney Bigard a fait des tournées en 74, 75 et 76 en Europe. Alors, Barney Bigard, il a été très influencé par Lorenzo Tio, par Jimmy Noon et par Buster Ballet, trois grands clarinettistes. Alors vous verrez dans ce morceau, il a une très belle sonorité, ample, chaude, chatoyante même, une grande fluidité des phrases et un grand sens du swing. Voilà tous les compliments que je pouvais faire à cet homme qui est décédé depuis longtemps. Voici donc maintenant Saturday Night Function par Duke Ellington et le Cotton Club Orchestra avec en vedette Barney Bigard. Et en attendant de le démarrer, eh bien moi, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, je vous dis à demain. Et Mathieu, je te dis également à demain.
À demain, Georges. Merci pour ce morceau et puis pour l'histoire.
C'est
de...
très beau. J'espère que tu l'as apprécié. Enfin, que tu as l'apprécié, pardon.
on va découvrir ça ensemble sur Calad, mais je doute pas que ça va être un beau morceau encore une fois. Merci beaucoup, Georges. Je te souhaite une belle journée et on se donne rendez-vous demain.
À demain.
Salut.
Au revoir.
Saturday Night Function, c'était un morceau de Duke Ellington, pardon, et son Cotton Club Orchestra, choix musical de Georges Botton, que vous retrouvez dans quelques minutes, à 14h exactement, dans son émission La 101ème, voilà, sur Calad, évidemment. Ensemble sur Calad, c'est évidemment sur Calad. Alors on retrouve tout de suite l'un des animateurs et producteurs de l'une de nos émissions musicales, c'est Métaclassique, une émission qui aborde la musique classique, comme son nom l'indique, avec toujours une petite réflexion autour d'un mot. Et l'animateur de cette émission, eh bien, c'est David Christoffel, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui? Alors on vous a retrouvé régulièrement dans cette émission, mais on ne vous a pas entendu depuis le déconfinement. Alors comment ça s'est passé pour vous?
La vraie nouveauté, c'est de pouvoir marcher davantage, et puis surtout de pouvoir retrouver des gens en vrai, c'est-à-dire d'arrêter un peu les seuls enregistrements par visioconférence et tout ça, et de pouvoir à nouveau accueillir des invités et préparer de nouveaux numéros de Métaclassique avec des vraies personnes présentes dans l'émission.
Mais c'est vrai qu'on a dû prendre des nouvelles habitudes, mettre en place des nouvelles méthodes pour essayer de continuer à faire ce qu'on faisait au quotidien, faire de la radio notamment. Je voulais parler avec vous d'un rituel qu'on essaye aussi de remplacer avec des nouvelles méthodes. C'est tout simplement la musique vivante. Alors on en écoute beaucoup enregistrée en ce moment, mais pour ce qui est des concerts, il faut trouver d'autres solutions en ce moment. Ça vient d'où cette drôle d'idée de se retrouver dans une salle et de regarder des musiciens sur une scène, des concerts?
C'est relativement récent. Enfin, évidemment, ça dépend de l'échelle historique que l'on prend. Mais on ne fait vraiment des récitals que depuis les années 1820-1830. On dit parfois que c'est Franz Liszt qui a inventé le concept, en quelque sorte, du récital, c'est-à-dire d'un interprète qui va sur une scène et qui est écouté par tout le monde. Mais il y a pas mal de musicologues qui ont travaillé sur l'histoire du silence, enfin du silence que le public doit faire pour écouter de la musique. Et celui-là, il est véritablement récent, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on ne se taisait pas pour écouter de la musique, même de l'opéra. On s'est mis à se taire au cours du XIXe siècle, et on a même commencé à éteindre la lumière de la salle à la toute fin du XIXe siècle. Ça s'est venu vraiment avec l'invention de l'opéra, de l'architecture que Wagner avait faite à Bayreuth, où pour la première fois on mettait de la lumière seulement sur la scène et on mettait le public dans le noir pour amplifier même cette espèce d'écoute introspective, c'est-à-dire l'idée que même l'écoute de la musique puisse être quelque chose d'un peu spéculatif, d'un peu introspectif. C'est vraiment une idée qui nous est venue du romantisme. Donc en fait, c'est une idée qui a deux siècles.
Donc c'est assez récent, mais alors ça veut dire qu'avant, pendant les concerts, tout le monde discutait, vaquait à ses occupations.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la musique était un rendez-vous social. On venait au concert pour se montrer, pour discuter. Donc les musiciens accompagnaient en fait les festivités et les mondanités. En fait, la seule musique qu'on devait écouter de façon un petit peu concentrée, c'était peut-être certaines pièces pour clavecin. Et encore, des fois, c'était des pièces qui étaient jouées dans un jeu. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait les pièces de caractère au milieu du XVIIIe siècle, où on jouait une petite pièce pour clavecin qui était censée mimer quelqu'un de la bonne société et on devait reconnaître qui c'était. Et donc c'est comme ça qu'on a des pièces de Couperin ou de Rameau qui ont des noms, qui sont des personnages de la cour qui devaient être reconnus tels qu'ils étaient mimés par la musique. Donc en fait c'était des blind tests.
Des blind tests déjà au clavecin à l'époque. Et tous les rituels qu'on connaît aujourd'hui du concert, les applaudissements, le silence peut-être quand les musiciens y rentrent, tout ça s'est fait petit à petit. Je sais qu'en musique classique particulièrement, c'est peut-être un peu plus ritualisé, les concerts. Comment ça s'est créé, ces codes?
Alors oui et non. Oui, c'est-à-dire que dans un concert pop, il y a des rituels. Simplement, on ne dit pas forcément que ce sont des rituels, mais il y a aussi des codes de réception. C'est-à-dire les moments d'applaudissement sont quand même relativement codés. Les moments d'interaction avec le public sont très travaillés. Donc il n'y a pas moins d'artifices dans la façon d'assister à un concert dans un concert de rock que dans un concert de classique. Simplement, c'est effectivement pas tout à fait les mêmes codes. Et puis c'est des codes qui évoluent, c'est-à-dire que on commente parfois avec un peu de purisme, un relâchement de de la règle de ne pas applaudir entre les mouvements d'une symphonie, mais c'est un relâchement qui laisse penser que peut-être est-ce que dans 10 ou 20 ans, et probablement d'ailleurs, on se mettra à nouveau à réapplaudir entre les mouvements, ce qu'on avait arrêté de faire depuis 150 ou 200 ans. Donc les rituels, ils sont, parce que c'est des rituels sociaux, ils sont amenés à bouger. Et là, avec effectivement ce qui est en train d'arriver et tout ce que les jeux de distanciation sociale vont devoir mettre, va falloir composer avec et forcément les rituels ont évolué.
Et alors, qu'est-ce qu'on va chercher dans un concert en tant que spectateur? Je trouvais ça amusant de me dire que ça fait bientôt 2 mois que je suis pas allé à un concert et j'ai réfléchi à concrètement qu'est-ce qu'on fait. C'est qu'on va écouter des gens sur scène, on va parfois s'entasser dans des salles et regarder quelqu'un sur une estrade faire de la musique et ça peut paraître bizarre alors qu'aujourd'hui, bah, si je veux écouter de la musique, j'ai qu'à allumer mon téléphone ou mon ordinateur. Non, en fait, on veut aller à des concerts, on veut écouter de la musique avec des gens autour de nous. Qu'est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce qu'on va au concert comme ça?
Je crois qu'on ne vit pas forcément la même chose quand on écoute la musique avec d'autres que quand on l'écoute tout seul. Enfin, après, le fait est qu'au concert, il n'y a pas la fonction replay, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un titre en boucle. Ça, je crois que c'est vraiment apparu avec le disque, que l'on puisse fétichiser comme ça une œuvre au point de se la mettre plusieurs fois par jour et puis aussi de la consommer seul à seul avec soi-même, alors que quand on est dans une salle de concert, même si on a un rapport potentiellement très, très personnel avec ce que l'on écoute, ce côté seul à seul, il est pris dans une possible communion de vivre quelque chose de fort à plusieurs centaines de personnes en même temps. Donc il y a peut-être une sorte d'attente ou de promesse de communion. Alors tout le monde ne le vit pas pareil forcément, donc on ne peut pas généraliser ce que... évidemment ce qu'on dit de ce qu'on ressent dans ces situations-là, mais le fait de le ressentir à plusieurs et puis aussi avec des qualités d'écoute qui sont données seulement par le concert, c'est des choses qui ne sont pas remplaçables par l'écoute au disque.
Et puis aussi l'interaction avec les musiciens, de voir la musique se créer sur scène, chaque concert est un moment unique en fait, qu'on n'a pas forcément avec un enregistrement.
Oui, parce qu'il y a le fait qu'un artiste sur scène, il adresse sa prestation au public, donc il y a quelque chose de... est offert, alors qu'une fois que c'est fixé sur le disque, même si l'artiste est mort, en fait, on peut continuer à l'écouter. Donc, on n'est plus dans le même partage. C'est-à-dire que peut-être est-ce que quand on écoute un disque, on est davantage en liaison avec l'œuvre, alors que quand on est au concert, on est vraiment dans un jeu de partage avec l'interprète qui le joue. Et ça fait que l'émotion ne passe pas au même endroit, et surtout même une espèce de don contre don, ou je sais pas, de transaction symbolique qui n'est pas tout à fait du même ordre.
Et justement, cet échange, on a essayé de le garder quand même pendant les 2 derniers mois. En tout cas, les artistes ont essayé de nous faire des cadeaux, on va dire, musicaux, en se retrouvant en visioconférence assez régulièrement. On a eu des grands orchestres qui ont proposé des choses assez impressionnantes. Techniquement, je pense que ça a dû être compliqué à mettre en place. Mais bon, ça a pas le même effet de regarder sur un écran que de regarder dans une salle des musiciens. Vous avez vu comme ça, vous, des grands moments de musique par visioconférence? Il y a des vidéos que vous avez vues qui vous ont plu particulièrement?
Alors attention, parce qu'en fait les vidéos où je pense par exemple aux orchestres symphoniques qui sont dans différentes fenêtres, ils ne peuvent pas jouer en live en même temps. En fait c'est techniquement pas possible, c'est-à-dire que les plateformes de visio, quelles qu'elles soient, font qu'il y a une espèce de mini latence hyper raccourcie qui fait qu'on peut quand même avoir des conversations assez fluides, mais en revanche on peut pas jouer de la musique sur Skype, sur Zoom, sur tout ces plateformes, c'est-à-dire qu'il y a un problème de coordination qui fait que toutes les vidéos qu'on a vues, comme l'orchestre de Serbie qui joue Bella Ciao pour les Italiens, c'est des choses qui ont été remontées après, où en fait l'Orchestre National de France a fait de la même façon un boléro de Ravel, où en fait ils ont joué avec chacun une bande dans l'oreille pour avoir le même tempo. Mais après, il y a eu un ingénieur du son qui s'appelle Dimitris Capolan qui a recoordonné tout ça pour que ce soit synchronisé. Mais en fait, il peut pas y avoir véritablement d'orchestre YouTube autrement qu'en post-prod. Donc ça donne là aussi une dimension de communion qui est de fait parce qu'elle prend pas les mêmes canaux médiatiques du même moment.
Moi, je me suis un petit peu amusé des percussionnistes qui étaient tout seuls dans leur salon et qui devaient attendre leur tour pour... ça devait être rigolo à voir sans la bande-son, de les imaginer seuls avec leurs cymbales dans leur salon.
Ça a surtout, oui, donné lieu à les percussionnistes, par exemple, de l'Orchestre de Paris, ont fait une vidéo inspirée du Sacre du Printemps de Stravinsky. Et là, ce qui est chouette, c'est que la contrainte technique de ne plus pouvoir jouer ensemble que par des vidéos recoupées par le montage après, crée une nouvelle version de l'œuvre et qui, en plus, est super réussie. Donc, c'est vraiment intéressant comme, en fait, ça redistribue les cartes. Et comme ça redistribue des cartes, il en sort une autre musique. Donc, il ne faut pas forcément essayer de refaire la même chose que ce qu'on pouvait faire avant, alors qu'on ne peut plus. Mais au contraire, inventer des formes qui ne peuvent se produire que par ce qui nous arrive, c'est-à-dire que pouvoir faire de la musique qu'à distance et par vidéo recoupée.
Donc ça aura permis au moins de redécouvrir des musiques, des façons de jouer des musiques qu'on connaissait depuis longtemps.
Ou d'en inventer complètement. À partir des musiques anciennes, de faire des formes musicales complètement nouvelles par le rebrassage et la manipulation de ces partitions de façon inédite.
Bon, en tout cas, moi j'ai hâte de retourner au concert, j'imagine que vous aussi.
Oui, et puis on va pas les écouter de la même façon maintenant, les concerts, mais alors je sais pas comment on va faire pour avoir le premier voisin à trois sièges à côté de soi. Je sais, enfin, ça aussi, ça va changer les conditions du coup. C'est-à-dire, de fait, ce sera pas commun.
Bon, on attend ces futurs concerts avec impatience. Merci David Christoffel, on vous retrouve dans l'émission Méta Classique ce soir sur Calade.
Ce soir, absolument.
Et je crois les dernières émissions c'était comparé, confronté. Il y avait des thèmes comme ça.
Ouais, alors au mois de juin il va y avoir manipuler, il va y avoir battre, et puis aussi il y a apaiser, non pardon pacifier, qui va être une production un peu particulière puisque c'est Maël Bailly qui a réalisé ce méta classique en interviewant des amis du conservatoire qui se retrouvent à faire de la médiation et à devoir faire la paix sociale par la musique, et en fait c'est pas si simple.
C'est pas forcément évident, oui, j'imagine.
Non, ça pose beaucoup de questions, et puis on se sent manipulé soi-même quand on fait ça, donc ça pose beaucoup de questions, et c'est vraiment important de pouvoir en parler de ces questions-là.
Et bien, on découvrira ça dans votre émission. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous, et puis à bientôt sûrement sur l'antenne de Radio Calade.
À très bientôt.
Bonne journée.
Ensemble sur Calade.
Et après ce beau moment passé à discuter avec David Christoffel des concerts, on attend de pouvoir y retourner. Eh bien, en attendant, on peut toujours écouter des radio shows, comme nous le chante tout de suite Yalta Club.
Assez visuel, pas trop subversif, à faire se famer les femmes et taire les détracteurs, mais ne surtout pas devenir ringard avant l'heure, se dégoter peut-être en style à l'américaine, et se voir propulser au devant de la scène. Et maintenant, we wanna be back. Just wanna live on the radio show. Moi vouloir rester
Yalta Club Radio Show pour terminer ce rendez-vous ensemble sur Calade. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et merci à tous nos intervenants qui ont participé à l'émission. Je vous donne rendez-vous demain de 12h à 14h pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. Très bonne journée, à demain, ciao ciao.
Calade, 14h.